au revoir, chers auditeurs de Rencontres Lusophones. Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Résonance pour une nouvelle émission confinée. Ce soir, on vous emmène aux confins de l'Atlantique à la rencontre de l'archipel de Saint-Thomé-et-Principe. Mais ce sera juste après mon billet d'humeur qui aujourd'hui rend hommage à une pointure de la littérature portugaise, José Saramago. C'est parti!
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. Dans la chronique de ce soir, je voudrais mettre en lumière une figure intellectuelle majeure à qui le Portugal a rendu hommage cette semaine. Il était écrivain, il avait une forte personnalité à la fois sensible et provocatrice. Il nous a quittés il y a 10 ans. Il s'agit de José Saramago, l'enfant terrible de la littérature portugaise qui, malgré son énorme talent d'écriture, n'a pas toujours été en odeur de sainteté dans son propre pays. Et pourtant, on lui a bien reconnu une œuvre littéraire d'une importante qualité et d'une grande originalité. Mais une œuvre qui, selon certains, versait parfois un peu trop dans la provocation, au point que c'est dans l'exil qu'il a dû se réfugier jusqu'à la fin de sa vie. José Saramago est né en 1922, il était d'origine modeste, et alors qu'il était engagé dans des études, faute d'argent, il ne peut les poursuivre. C'est donc vers la pratique de petits boulots précaires qu'il va se tourner pour survivre. Ainsi, tour à tour, il exercera les métiers de dessinateur industriel, de serrurier, d'agent d'assurance et même celui d'ouvrier d'édition. Et c'est finalement dans le domaine du journalisme qu'il effectuera une longue carrière. Une carrière dans laquelle il ira même jusqu'à occuper la fonction de directeur du journal, l'un des plus importants du Portugal, le Diário de Notícias. En parallèle de son métier de journaliste, il se lance également dans l'écriture. Son premier roman, Terre de péché, sera édité, mais il ne rencontrera pas vraiment un franc succès. Quant à son deuxième roman, Relevé de terre, il se verra carrément refusé par tous les éditeurs. Donc voilà, on ne peut pas dire que les débuts en littérature de José Saramago aient été très faciles. Il manquait certainement encore d'un peu d'expérience et d'assurance. En 1975, il est licencié de son poste de directeur de journal et, considérant cette épreuve comme un nouveau départ, il décide de se consacrer entièrement à sa passion, l'écriture. En 1982, c'est son troisième roman, Le Dieu Manchot, qui lui rapportera enfin le succès et la reconnaissance internationale. À partir de là, ses romans seront traduits dans de nombreuses langues et publiés dans le monde entier. Mais le point d'orgue de sa carrière arrivera réellement en 1998, lorsqu'à l'âge de 60 ans quand même, il se verra récompenser le prix Nobel du prix Nobel de littérature. Un prix prestigieux dont il est d'ailleurs l'unique lauréat portugais. Néanmoins, malgré cette consécration internationale, l'un des sommets de sa production littéraire restera tout de même le roman intitulé « L'année de la mort de Ricardo Reis », paru en 1984. Une œuvre qu'il situe en pleine dictature et dont l'atmosphère complètement irréelle nous raconte des conversations entre Fernando Pessoa et l'un de ses hétéronymes, Ricardo Reis. Et puis, on ne peut pas parler de José Saramago sans citer son œuvre magistrale, Le Radeau de Pierre, publié en 1986. Un livre qui raconte une série d'événements surnaturels et qui atteignent leur apogée lorsque la péninsule ibérique se détache et qu'elle part à la dérive sur l'Atlantique en se dirigeant d'abord vers les Açores. Cette situation géographique et cette œuvre littéraire offrent à Saramago une belle occasion de commenter la politique et ceux qui la pratiquent. C'était un peu ça, la géniosité de Saramago finalement, faire passer certaines convictions politiques au travers de son œuvre littéraire. Et il faut bien dire qu'au-delà de son talent pour la littérature et la peinture, son engagement politique aura également marqué sa vie. Il était athée et fermement engagé au sein du Parti communiste portugais. Son roman « L'Évangile selon Jésus-Christ », édité en 91, a d'ailleurs fait bondir des milieux catholiques et créé la polémique dans son propre pays natal. C'est d'ailleurs ce qui l'a contraint à quitter le Portugal pour aller s'exiler dans les Canaries sur l'île de Lanzarote. Atteint de leucémie, José Saramago s'éteint le 18 juin 2010 dans les îles Canaries. Aujourd'hui, il est mort, pourtant son travail continue d'être réédité dans différentes langues. Les nouvelles générations ont donc ainsi tout le plaisir de découvrir sa voix et admirer cette personnalité multifacette et notamment celle d'un homme engagé qui n'a jamais cessé de dénoncer les injustices et de se positionner face à tous les conflits de son temps. Pour moi, lui et Fernando Pessoa faisaient sans aucun doute partie des écrivains portugais les plus distingués.
c'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Rencontre Lusophone, l'émission qui explore nos racines lusitaniennes. Vous venez d'écouter Janga dat Perdre, en hommage à l'œuvre magistrale Le radeau de pierre de José Saramago, qui était l'objet de mon billet d'humeur du jour. C'était un morceau instrumental du musicien Marco Santos et son quatuor. La partie de leur histoire dont les Portugais sont le plus fiers est sans aucun doute l'épisode glorieux des découvertes maritimes. Les grands navigateurs portugais ont été d'une certaine manière les précurseurs européens en matière de navigation, puisque ce sont eux qui ont découvert les côtes brésiliennes et bien d'autres territoires aux limites du monde. Poussés par la soif de l'or et dans l'espoir de découvrir de nouvelles routes, les Portugais avaient entrepris de contourner l'Afrique et c'est ainsi qu'ils ont acquis d'immenses empires coloniaux. On le sait, après eux, d'autres grands navigateurs européens leur ont ensuite emboîté le pas, permettant à l'Europe de s'étendre sur une grande partie du globe. Mais, et c'est indiscutable, le Portugal a bien été l'un des plus vieux empires coloniaux au monde. Puisque dès la fin du XVe siècle, ces navigateurs se sont lancés dans de grandes explorations maritimes et ont établi des colonies en Afrique. Ce fut le cas de l'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert et de Saint-Thomé et Principe, pour les principaux bien sûr. Ensuite, c'est de tous ces territoires africains que sont partis les tout premiers bateaux chargés d'esclaves. Au total, la présence portugaise en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie aura duré 5 siècles. 5 siècles d'esclavage. C'est bien simple, jusqu'en 1975, qui fut sensiblement l'année au terme de laquelle ont pris fin de longues et intenses années de guerre, les dernières colonies portugaises ont pu finalement accéder à l'indépendance. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles le sont, les Portugais ont bel et bien été un peuple colonisateur. À eux maintenant de gérer et de vivre avec le poids de ce passé colonial. Le récit de l'histoire nationale portugaise s'abreuve encore aujourd'hui de l'exaltation presque à l'unisson des découvertes en tant qu'épopée universaliste, voire humaniste, qui hisse le Portugal au rang de pionnier de la globalisation, de champion du métissage et de la rencontre des cultures. En effet, en ce qui concerne les grandes découvertes maritimes, les Portugais ont une mémoire toute sélective. C'est tellement plus facile de parler de brassage des cultures ou d'universalisme plutôt que de colonialisme, d'esclavagisme ou de racisme. Comparé aux autres pays européens, ils se voient même plus comme des bons colonisateurs et citent comme preuve le mélange des populations au Brésil et au Cap-Vert. Cette vision du monde profondément enracinée dans la société constitue d'ailleurs l'une des pierres angulaires de l'identité nationale portugaise. Les Lusiades, l'œuvre littéraire de Camões, en est une parfaite illustration. Le poète y explique comment les nations occidentales ont, entre guillemets, sauvé l'Afrique. Voici ses vers. Vois l'Europe chrétienne qui surpasse et éclipse les autres nations pour l'ordre et la puissance. Et vois l'Afrique, peu prodigue des biens du monde, inculte et tout entière livrée à la barbarie. Tu parles. Après avoir écouté ça, on comprend un peu mieux le choc des civilisations d'aujourd'hui.
Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estala a madeira em sangue estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta roxo e não canta, não me des pena. Cresce, gira, sol cresce entre açucenas. Afaga-me o corpo todo se te pertenço. Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Lembra-me um sonho lindo quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estalamada em sangue estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Ai, como eu te quero. Gira só.
Vous êtes bien dans la chronique culturelle de Rencontres lusophones, mais mon propos d'aujourd'hui a commencé par la période glorieuse des grandes découvertes maritimes et de son discours impérialiste. Un discours impérialiste qui est d'ailleurs une manière portugaise d'être au monde, très particulière, puisque lorsqu'il met en avant cette partie de son histoire, il évoque la découverte de terres inconnues, le brassage des cultures, mais rarement, très rarement, la violence provoquée par ce colonialisme et surtout pas d'esclavage. Vous verrez tout à l'heure, un peu plus loin, pourquoi j'ai choisi d'ouvrir la chronique d'aujourd'hui avec le long passé colonial et esclavagiste portugais. Et on tentera de comprendre, ensemble, pourquoi ce passé est systématiquement occulté par les grandes découvertes des explorateurs portugais tels que Vasco da Gama ou Henri le Navigateur. En tout cas, c'est vrai, il semble que le Portugal souffre d'amnésie lorsqu'il s'agit de parler de ses anciennes colonies. Et pourtant, de nombreux habitants du Portugal viennent de ces anciennes colonies et militent aujourd'hui, à juste titre, pour que l'histoire de l'esclavage, leur histoire, soit reconnue par l'ensemble des Portugais. Mais faire face à ce récit partiel et biaisé de l'histoire, essentiellement centré sur l'Occident, est une tâche qui reste encore à accomplir. Et ce, malgré les efforts de certains secteurs de la société, tels que les militants et les universitaires. Il existe au Portugal une inébranlable dévotion à un passé glorieux qui n'admet presque aucune contradiction au point de le considérer comme un paradis perdu. Dans ce récit unique, l'esclavage des Africains est caractérisé par sa relégation en tant que dommage collatéral et dans le pire des cas, par son absence criante dans les livres d'histoire. Il existe d'ailleurs à Lisbonne un monument bien connu de la plupart d'entre vous, et qui rappelle parfaitement le passé colonial portugais. Il s'agit du Padrão dos Descobrimentos, le monument des découvertes construit en 1960, en pleine dictature. Ce monument blanc, installé le long du Tage, a été édifié à la gloire des explorateurs portugais des 15e et 16e siècles, qui sont représentés tels d'héroïques aventuriers qui ont bravé l'inconnu et ont apporté la civilisation dans des pays lointains. Cette imposante construction de pierre illustre parfaitement la fierté coloniale qui cimente toujours le patriotisme populaire de la nation portugaise. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les manuels d'école abordent eux aussi l'ère des découvertes comme une époque glorieuse d'un pays qui, par sa petite taille et sa désormais faible influence sur la scène internationale, cherche à briller comme il peut. Aux grandes dames d'ailleurs des associations d'afro-descendants portugais qui, en voulant relancer le débat de l'esclavage, réclament aujourd'hui un mémorial en hommage auprès de 6 millions d'esclaves de l'ex-empire colonial portugais. Un mémorial qui, bien que toujours à l'état de projet, déchaîne déjà des passions dans le pays. Sa construction est prévue dans le quartier Ribeira das Naus, à l'endroit précis d'où pendant près de 400 ans et jusqu'au 19e siècle, ont accosté des bateaux chargés d'esclaves en provenance de pays africains sous domination portugaise. Des navires qui arrivaient tout droit d'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert et de Saint-Thomé et Principe. Ce projet artistique, constitué de 540 pieds de canne à sucre en aluminium noir et visant à honorer toutes les victimes de l'esclavage, s'appelle Plantation, Prospérité et Cauchemar. Il a été créé par l'artiste angolais Kilwandji Kiakenda. Il va bientôt remplir la place du Camp das Sobolas, juste devant le Tage, et invitera les visiteurs, s'ils le veulent, à flâner parmi ces tiges géantes. Juste à côté, il y aura également un siège en béton de forme semi-circulaire visant à servir à la fois de point de rencontre, de lieu de manifestation sociale et culturelle. Le but étant bien sûr de relancer le débat autour du racisme actuel, parce que beaucoup s'accordent à dire que le Portugal doit absolument admettre que l'esclavage n'est pas qu'un épisode du passé, puisqu'il existe sans aucun doute un lien entre l'esclavage, le travail forcé qui s'en est suivi et le racisme qui parcourt la société portugaise actuelle et qui n'accorde que trop peu de place à ses citoyens noirs. Selon les associations de descendants afro-portugais, il ne s'agit pas d'exhumer des fantômes du passé, mais d'entreprendre pour la population noire portugaise une action de reconnaissance et de réparation. Reconnaissance du rôle central qu'a joué le Portugal dans les actes de violence et des déshumanisations provoquées par l'esclavage. La reconnaissance de la résistance et de la lutte des Africains contre cette soumission. une reconnaissance de la présence noire et africaine depuis des siècles au Portugal, en particulier dans la ville de Lisbonne, et de leur contribution à la culture, à l'économie et à la société portugaise. Et enfin, reconnaissance des continuités historiques qui ont fait qu'à l'esclavage ont succédé de nouvelles formes d'oppression. Je parlais bien sûr du travail forcé qui a été mis en place à l'abolition et qui a été maintenu jusque peu de temps avant l'instauration de la démocratie portugaise. Et sans oublier le racisme structurel qui imprègne encore aujourd'hui la société portugaise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que l'intégration de la population noire au Portugal soit vraiment une réussite.
Todo bondoso, cheiroso, esguio escuro, me erra fazendo favor, me erra, que aquele tal de nosso amor já era, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Você escolheu essa condição de viver como quem não tem dono. E eu aqui, no meu abandono, não vou mais esperar. Cinza, soluçando de alegria.
Ooh.
Si vous prenez l'émission en cours de route, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Aujourd'hui confinée, Rencontre lusophone, qui ce soir vous fait prendre le large pour vous emmener à la découverte de l'archipel de Saint-Thomé et Principe. En première partie et en guise d'introduction, j'ai abordé tout à l'heure le lourd passé colonial portugais, l'esclavagisme qu'il a entraîné et le lourd tribut payé encore aujourd'hui par la population noire portugaise. Dans le golfe de Guinée, l'archipel de Saint-Thomé et Principe est composé de deux petites îles qui possèdent une position stratégique et dont les colons portugais ont su profiter dès leur arrivée. Au XVIe siècle, ils font de l'archipel un point d'ancrage pour le commerce triangulaire, un lourd passé qui a marqué la culture des deux îles. Je vous raconterai trois histoires vraies, pure conséquence du colonialisme portugais sur ces îles et leurs habitants. Mais pour l'instant, faisons la connaissance de ces deux îles perdues dans l'Atlantique, en plein sur la ligne de l'Équateur. Cet archipel de deux îles minuscules, Saint-Thomé et Principe, est situé dans le golfe de Guinée, à 300 km à l'ouest du Gabon et de la Guinée équatoriale. Cette ancienne colonie portugaise est aussi appelée l'île Chocolat, car on y cultive l'un des cacaos les plus fins au monde. Couverte de forêts équatoriales, la grande île au sud, c'est Saint-Thomé. Elle accueille la capitale, elle aussi nommée Saint-Thomé. C'est elle qui possède les plus hauts sommets volcaniques de l'archipel, dont le très fameux pic de Saint-Thomé, culminant à 2024 mètres au-dessus de la mer, avec plus de 600 mètres de parois verticales. Plus petite, l'île de Principe, qui ne compte que 5000 habitants, présente elle aussi le superbe visage d'une île volcanique couverte de jungles, dont la moitié est occupée par un parc naturel. Indépendant depuis 1975 et démocratique depuis 1990, Saint-Thomé et Principe n'a pour l'instant qu'une courte et jeune histoire. Quand les Portugais y débarquent le jour de la Saint-Thomas en 1471, la grande île était inhabitée. À la fin du XVe siècle, ils y reviennent pour petit à petit coloniser cette terre vierge, sans manquer d'amener avec eux des esclaves qui mettront en valeur ces terres volcaniques. À partir du XIXe siècle, les plantations de canne à sucre vont peu à peu être secondées, puis remplacées par le cacao qui fera la réputation de l'île. Quant à la culture de Saint-Thomé et Principe, c'est un joyeux mélange d'Afrique et de Portugal. La musique y tient une place particulière, ainsi que d'autres formes artistiques, telles que le tchiloli, une pièce de théâtre dont l'intrigue se déroule sous l'époque de Charlemagne. C'est une pratique très vivante et probablement l'un des éléments les plus originaux de la culture de Saint-Thomé. Elle est jouée en mélangeant des textes, de la musique et de la danse. Voici son histoire. Le tchiloli est en fait un mélange de deux cultures, la culture européenne et la culture africaine. Dès le début du XVIe siècle, les colons portugais décident de faire de ces petites îles désertes le tout premier laboratoire esclavagiste du monde. Alors que la Méditerranée est contrôlée par les musulmans, les Portugais tentent de trouver une nouvelle route maritime pour atteindre les Indes en longeant la côte ouest africaine. En 1471, Juan de Santarém et Pero Escobal débarquent sur la plage d'Anambo, dans l'ouest de Saint-Thomé. Une croix située sur l'île ouvre le premier chapitre de plusieurs siècles de servitude. En fait, lorsque les Portugais ont débarqué sur l'île, ils ont installé cette croix pour symboliser leur arrivée et leur prise de possession du lieu. On retrouve ainsi beaucoup d'autres constructions semblables le long de la côte africaine. Inhabité mais fertile, l'archipel de Saint-Thomé et Principe se révèle être un point d'escale idéal pour le commerce triangulaire. Saint-Thomé était en réalité l'endroit le plus sûr pour entreposer les esclaves. L'archipel avait donc un rôle stratégique parce que les esclaves qui étaient capturés au Congo, sur la côte ouest africaine, au Bénin ou ailleurs, étaient transportés jusqu'ici. Ces esclaves étaient ensuite transférés vers l'Amérique. Puis d'Amérique, on transportait l'or vers l'Europe, et d'Europe, on rapportait des armes en Afrique, et ainsi de suite. À l'époque, Saint-Thomé et Principe est devenu le centre de ce réseau esclavagiste, et l'archipel devient donc la plaque tournante du trafic d'esclaves. Mais les Portugais, devenus maîtres de la traite, ne s'arrêtent pas là. Sur cette terre au climat équatorial humide, ils inventent le tout premier système de plantation fondé sur l'esclavage. Et le territoire devient désormais exclusivement dédié à la production de sucre. Certaines années, jusqu'à 10 000 esclaves arrivent de la côte africaine pour servir de main-d'œuvre. Saint-Thomé et Principe fournit alors 50% du sucre européen. L'archipel roule sur l'or blanc. une richesse bientôt convoitée par les Hollandais et les Français. Pour se défendre, les Portugais érigent en 1575 la forteresse de San Sebastião, à la pointe de la ville de São Tomé dans le nord-est de l'île. Un fort qui servira également de prison pour les esclaves. Au centre de la forteresse, il y avait une cour avec une oubliette où l'on mettait les esclaves rebelles, ceux qui méritaient d'être punis. La mer montait et remplissait cette pièce, et la plupart du temps, les gens qui étaient enfermés mouraient noyés. Les châtiments étaient constants et permanents. Les esclaves étaient propriété du maître, ils n'étaient que des objets, étaient donc soumis au moindre désir de leur maître. Des conditions de vie effroyables pour ces esclaves que certains réussiront heureusement à fuir. Le sud de l'île, plus difficile à contrôler par son paysage escarpé, deviendra ainsi le quartier général des fugitifs qui vont établir ce qu'on appelle les Mocambos. Ces Mocambos deviendront un véritable refuge pour ces évadés. Ils seront le noyau de la résistance. Un de ces villages existe encore aujourd'hui, c'est San Jorge dos Angolares. Au milieu du XVIe siècle, un navire en provenance d'Angola, chargé d'esclaves, fait naufrage. Environ 500 rescapés s'échappent et s'installent sur cette plage du bout du monde. Oser devenir libre, voilà le courage que célèbrent chaque année lors d'une messe les descendants de ces rescapés. Les plus anciens disent d'ailleurs que la croix qui est dans l'église a été fabriquée avec les débris du bateau qui a fait naufrage. Tous les ans, on vénère donc cette croix, parce que c'est finalement grâce à ce bois flottant que leurs aïeux ont réussi à rejoindre la plage. Et comme elle est clouée à l'intérieur de l'église, tous les ans, on en fait une reproduction. Les habitants rendent ainsi hommage à la sainte patronne de ce village créé par des assoumis, Sainte Cruz ou Sainte Croix, symbole de cette résistance. Leurs descendants sont aujourd'hui fiers de sentir couler en eux la liberté d'avoir réussi à vivre loin de l'enfer portugais. Et c'est donc la raison pour laquelle cette fête existe encore aujourd'hui. C'est un peu l'essence du lieu qui est transmis de génération en génération. Et pour ceux qui sont nés sur l'archipel, c'est une fête très importante. Autrefois, pour maîtriser la flamme de la rébellion, les Portugais encourageaient le métissage de la population. Les mulâtres, ou fils de la terre, comme les appelaient les colons, étaient ainsi plus aptes à protéger les intérêts des Portugais dans l'île rebelle par l'opposition d'entre deux. Les métis occupaient d'ailleurs de hauts postes dans l'administration et devenaient l'élite de l'archipel. Dans une ancienne raffinerie de sucre enfouie dans l'est de l'île, une centaine d'esclaves ont trimé jour et nuit pour produire leur blanc, parfois jusqu'à en mourir d'épuisement. À la tête de ce système d'exploitation, il y avait une famille métisse. À ce stade, ce n'était plus une simple question de race ou de couleur de peau, c'était devenu une question de statut social. Une majeure partie des grandes familles métisses de São Tomé étaient d'ailleurs devenues des propriétaires d'esclaves. Ils possédaient des esclaves et au fil des années, ils se sont eux aussi mariés avec des descendants d'esclaves. Une expression sur l'archipel dit d'ailleurs que STP, les initiales de São Tomé et Principe, signifie « nous sommes tous proches, tous cousins ». Un peu pour signifier que ce métissage a finalement abattu les barrières sociales. Sous le joug portugais, une échappatoire subsiste pour les esclaves à portée d'imaginaire. C'est le théâtre, ou une de ses formes très particulières, le chiloli. À la fin du XVIe siècle, les maîtres sucriers de l'île font appel à des troubadours venus du Portugal pour les divertir, avec une pièce très en vogue à l'époque, la tragédie du marquis de Mantoue et de l'empereur Charlemagne, écrite par le portugais Baltasar Dias et jouée uniquement par des hommes. Pendant les représentations, les esclaves observent et décident de s'approprier cette épopée dramatique. Sur leur scène, improvisée à l'abri des regards des colons, les rôles s'inversent, les frontières et les couleurs s'effacent. Ils se recouvrent le visage de peinture blanche, c'est le cas par exemple celui qui joue le rôle de l'impératrice. Il devient blanc parce qu'il représente un personnage de haut rang et de grande noblesse. Et puis dans cette représentation, il y a également des masques en fin grillage, façonnés qui rappellent les masques africains. Par le chiloli, les esclaves privés de racines et d'identité renouent ainsi avec leur histoire. Le culte des ancêtres, pilier de leur culture, était formellement interdit par les colons portugais. Alors, discrètement, le chiloli permet aux esclaves d'organiser des funérailles en grande pompe, au nez et à la barbe des maîtres, pour garder un lien avec leurs morts et leur terre-mère. C'est un pied de nez aux colons et une belle manière de garder des usages africains. Depuis plus de 400 ans, la même pièce, la même intrigue se joue ainsi et se répète à l'infini. Et ce sont de longs plaidoyers pour la justice qui se révèlent être un exutoire salvateur des esclaves contre leurs maîtres. Le Chiloli illustre ainsi une lutte des esclaves contre les colons pour leur faire comprendre qu'ils seront punis par la justice divine après tout le mal qu'ils leur ont fait subir. L'essentiel étant de préserver ce qui a été transmis de génération en génération comme un moyen d'expression pour revendiquer ses droits. Par le Chiloli, les esclaves des îles du milieu du monde ont pu tenir debout face à l'oppression et s'évader par l'imaginaire face à l'inhumanité. À l'abolition de l'esclavage en 1876 et jusqu'à aujourd'hui, ce souffle de la révolte persiste et se perpétue. Depuis son introduction dans l'île en 1822, le cacao a marqué l'histoire du pays. Une dimension essentielle de sa découverte en remontant le chemin du chocolat de la tablette à la cabosse pour appréhender ce que furent les plantations, la vie des colons et des esclaves. En bref, l'histoire et la culture de Saint-Thomé. Voici l'histoire douloureuse du cacao de Saint-Thomé et Principe. Au début du XXe siècle, la culture de ces précieuses fèves occupe les trois quarts de son territoire. Alors colonie portugaise, Saint-Thomé et Principe devient terre du cacao, et ce jusqu'à son indépendance dans les années 70. Une douceur qui garde le goût amer de l'esclavage et de la colonisation. Les habitants de Saint-Thomé ont donc avec le cacao une relation d'amour et de haine. Pour eux, le cacao est certes une source de bienfaits, mais également source de beaucoup de problèmes avec les propriétaires des plantations. Dans le nord de l'île de Saint-Thomé, d'immenses plantations ont autrefois fleuri un peu partout et dominé l'horizon. Elles sont devenues des fantômes d'une splendeur passée. Construites par les colons portugais, on les appelait sur l'île les roças et s'étendaient à perte de vue. La plus imposante d'entre elles s'appelait la Roçaria do Ouro, aux rivières d'or. Aujourd'hui, de par son étendue, elle est devenue un village. Au début du XIXe siècle, le roi portugais Jean VI avait missionné des colons pour apporter secrètement de jeunes cacaoyers du Brésil sur cette terre volcanique. L'indépendance du Brésil en 1922 avait contraint le Portugal à trouver une nouvelle colonie avec une terre adaptée pour produire son cacao. Au Cap-Vert, il y avait des problèmes d'eau. En Guinée, il n'arrivait pas à contrôler le territoire, trop instable à cause des attaques. Saint-Thomé était donc plus ou moins pacifié et les terres de l'archipel fertiles. On l'a donc désigné pour recevoir les tout nouveaux plants de cacao. Et comble du comble, à l'époque, le chocolat faisait fondre la bourgeoisie européenne qui s'arrachait ce produit exotique de luxe. Elle a donc ainsi contribué à établir de petits empires du cacao, comme celui de Gabriel Bustamante, un marchand d'esclaves brésilien qui, en 1865, a construit l'emblématique Roçaria do Ouro. Ces modèles de plantation étaient fondés sur la servitude et fonctionnaient comme des petites cités autonomes avec leurs logements, leurs églises et plus tard leur production d'électricité. Dans cette plantation, plus de 2000 personnes travaillaient et vivaient sur place. Les travailleurs étaient tous entassés dans des baraquements, les senses. À hauteur de vitre, les maîtres, les contre-maîtres les surveillaient. L'avenue principale de cette plantation était rectiligne et exempte du moindre esclave. Elle symbolisait la hiérarchie très stricte qui y régnait. Aucun travailleur n'avait le droit d'emprunter cette rue. La seule exception était pour se rendre à l'hôpital, le bâtiment le plus imposant de la plantation. Soigner sur place les employés était un moyen de leur faire comprendre le travail au plus vite, mais aussi de les empêcher de quitter l'enclave. Avoir un hôpital dans la plantation était également l'assurance pour les maîtres de garder le contrôle sur ces travailleurs. Pendant plus de 10 ans, l'esclavage était de mise dans ce monde fermé. Mais à son abolition, en 1876, les Portugais ont rusé en instaurant le régime de l'indigénat, c'est-à-dire que liés par un contrat, les employés ou contratados n'avaient aucun droit. Mais les conditions de travail inhumaines dans cette plantation ont commencé à s'ébruiter au-delà des frontières et jusqu'en Europe. Le propriétaire décide alors de produire un film de propagande pour rassurer les amateurs européens de cacao. Et des milliers de contratados d'autres colonies portugaises, comme de l'Angola ou du Mozambique, continuent pendant de nombreuses années à venir encore grossir les rangs. Cette servitude à grande échelle a même fait exploser le rendement de la production et Saint-Thomé et Principe est devenu le premier producteur mondial de cacao. Les productions de toutes les roças se sont donc mises à converger vers la ville de Saint-Thomé. En 1908, on a même dû construire un énorme port pour stocker la production des plus grandes plantations de cacao. Toute la production de cacao était destinée à l'export vers les pays qui ont les plus grands chocolatiers du monde. Tout le cacao vendu était transformé en chocolat à l'étranger, au Portugal, mais surtout en Belgique, en Suisse et même en Angleterre. L'or noir de Saint-Thomé et de Principe, c'était le cacao. D'où les petits palais et l'architecture coloniale imposante des Rossage. Et pas seulement dans les plantations, mais aussi en ville, à Saint-Thomé. Les planteurs exportaient du cacao, mais en même temps, ils importaient des produits qui étaient vendus dans leurs comptoirs en ville. Un âge d'or, malgré tout de courte durée, puisque la révolte de la population contre les colons portugais en 1953, mais également la nouvelle concurrence des autres pays africains, entraîne le lent déclin de la production de Saint-Thomé. Au moment de l'indépendance, en 1975, la culture du cacao ne représente plus qu'un quart de la superficie du pays. Aujourd'hui, sur l'île de Principe, la petite sœur de Saint-Thomé, le cacao renaît de ses cendres. Dans une ancienne rosse, Claudio Corallo, un agronome italien, découvre il y a une vingtaine d'années un trésor encore intact, d'antiques cacaoyers, les descendants directs des premiers plants apportés du Brésil sur l'archipel. Dans un laboratoire culinaire, on cherche d'une certaine manière à ôter toute l'amertume passée du cacao. Un cuisinier chocolatier, João Carlos Silva par exemple, forme une dizaine de jeunes Saint-Thoméens aux caprices du cacao. Une aubaine pour l'archipel où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Transmettre et transformer l'histoire pour redonner le goût et la vie à cette perle qu'est la fève de cacao, c'est une obligation, un engagement envers ses propres racines. Malgré tout, aujourd'hui, la production de cacao du pays reste infime, comme si l'archipel avait peur de réveiller ses vieux démons.
Avion sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? A todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo.
Comme je vous le disais tout à l'heure, lors de sa découverte par les deux navigateurs portugais, João de Santarém et Pedro Escobar en 1470, l'archipel de Saint-Thomé et Principe était vide d'habitants. Il a été peuplé par les Portugais. Tout d'abord, l'île de Saint-Thomé, qui fit une terre d'exil et de déportation d'esclaves, de repris de justice et de jeunes juifs. Écoutez plutôt cette autre histoire. Surnommées les îles du milieu du monde, ces anciennes colonies portugaises, posées sur la ligne de l'équateur, surprennent par la richesse de leur histoire métissée. mais cet archipel de São Tomé et Principe fut le théâtre d'un enlèvement massif d'enfants. L'histoire démarre à des milliers de kilomètres de São Tomé sur la péninsule ibérique. Au nom de l'unité religieuse, les rois catholiques d'Espagne instaurent l'Inquisition. Une chasse aux Juifs commence alors. Les rois de Castille étaient des chrétiens fervents et ils voulaient que les gens respectent les préceptes catholiques. La première raison, c'était bien sûr que les Juifs ne respectaient pas les règles du catholicisme. La deuxième raison, c'était qu'à cette époque, on était persuadé que les Juifs gagnaient beaucoup d'argent et il faut dire que ça dérangeait un peu les catholiques. Le 31 mars 1492, le décret de l'Alhambra en Castille ordonne l'expulsion de tout juif refusant le baptême chrétien. Des dizaines de personnes fuient alors vers le pays voisin, le Portugal, qui leur ouvre ses portes, mais pas pour longtemps. Le roi Manuel Ier, marié à la fille du roi catholique espagnol, adopte lui aussi une politique d'exclusion. Parmi les juifs forcés à un deuxième exil, près de 2000 enfants sont enlevés à leur famille. Ils sont parqués dans des bateaux, direction São Tomé, une île fraîchement colonisée et seulement peuplée de quelques bagnards portugais. L'une des hypothèses était que São Tomé était une colonie de criminels, un endroit inhabité. Il y avait donc ce besoin de coloniser d'îles. La seconde hypothèse est que le fait qu'il soit aussi jeune faciliterait, pensait-on, une conversion vers le catholicisme. Les Portugais les séparent donc de leur famille pour leur assurer une éducation religieuse sur cette île du bout du monde. Quand ils découvrent São Tomé en 1471, les Portugais s'empressent d'y installer une croix comme symbole de l'emprise catholique sur cette nouvelle terre. Une terre réputée hostile. Vers 1493, ces milliers d'enfants débarquent sur l'île où personne ne veut s'installer. Certains venaient et tenaient d'ailleurs juste 15 à 20 jours, y compris les gouverneurs. L'histoire s'est d'ailleurs beaucoup répétée et cela est arrivé à plusieurs gouverneurs, évêques ou administrateurs. Beaucoup sont morts à São Tomé, ici c'était donc à la fois l'enfer et leur cimetière. Et pour ces jeunes enfants juifs déracinés, c'était surtout l'enfer comme nouvelle famille. Déracinés, livrés à eux-mêmes, les enfants doivent faire face seuls à ce milieu insalubre, aux conditions de vie épouvantables. En à peine 5 ans, ils sont 1400 à mourir de faim et de maladie. C'est une situation très douloureuse parce que la plupart des enfants étaient très jeunes. Pour beaucoup, ils avaient à peine 7 ans. Leur famille leur manquait terriblement, l'éloignement, le climat défavorable, les dures conditions de travail, tout cela était très difficile et les enfants finissaient par mourir. Pour les protéger de ce milieu malsain, le gouverneur portugais, Álvaro de Caminha, décide alors d'installer la petite communauté dans l'est de l'île, plus accueillante avec sa large baie. Mais cette tentative se solde par un échec. En 1532, une trentaine d'années après leur arrivée, 60 enfants seulement sur les 2000 exilés ont survécu. Dans le petit cimetière de São Tomé, la capitale de l'île, deux tombes juives résistent encore aujourd'hui à l'oubli. Elles sont là comme des derniers indices de probables descendants. Difficile donc de retracer l'histoire de ces quelques survivants. C'était un futur incertain, mais comme il était au sein de la population, ils ont dû se mélanger avec les gens après un certain temps. Cette histoire, même si elle est malheureuse, a pu permettre un métissage de la population. C'est pour cela que l'on croit que sur l'île, les habitants ont pour la plupart des origines juives. Ce qui est sûr, c'est qu'un passé bien incertain coule dans les veines des habitants de l'île. De cet épisode sombre de l'histoire portugaise, très peu d'informations subsistent d'ailleurs encore pour tenter d'effacer des mémoires l'enlèvement de ces milliers d'enfants. Encore une fois, c'est bien triste, mais ça n'intéresse pas les Portugais de mettre tout ce passé au grand jour. Alors, ils en font le moins possible pour diffuser ces informations. Ce qui est certain, c'est que les colons portugais ne recommenceront jamais la même expérience. Plus aucun enfant ne sera envoyé à São Tomé. Par contre, entre les 16e et 19e siècles, la couronne portugaise continuera à déporter encore des milliers d'esclaves pour continuer de cultiver ce paradis maudit.
Fosse marinheiro, era eu quem tinha partido, mas meu coração ligeiro não se teria partido, ou se partisse colava com cola de maresia. fosse marinheiro, seria doce meu lar.
Maximum de son, 96.9.
C'est Radio Résonance.
Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Mais on revient la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Je vous embrasse.
Chers auditeurs de Rencontres lusophones, merci à vous de nous être fidèles. Rendez-vous ici même demain dimanche à 20h30 pour la rediffusion de cette émission. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de Radio Résonance Bourges. Rendez-vous ici même samedi prochain pour une prochaine émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et sortez masqués. A demain.